Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse et la tribune. Au programme, un groupe de pirates pro-russes revendique l'attaque. Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Et si la colocation, c'était pour vous aussi? Bonne écoute.
Un groupe de pirates pro-russes revendique l'attaque. Un texte de Hugo Jonca et Mélanie Marquis, paru le 11 avril 2023 dans La Presse. Des pirates pro-russes revendiquent l'attaque du site du Premier ministre et de pages du Parlement, alors que Justin Trudeau reçoit son homologue ukrainien, Denis Shmyhal, à Toronto. À partir de la fin de la matinée du 11 avril, le site Internet du Premier ministre a subi des pannes intermittentes. Sur son compte Telegram, le groupe pro-russe No Name en revendique l'attaque. Ce n'est pas inhabituel pour des pirates russes de cibler des pays lorsqu'ils démontrent leur appui inébranlable pour l'Ukraine en recevant la visite d'une importante délégation politique ukrainienne. Alors le moment choisi n'est pas étonnant, a dit Justin Trudeau en conférence de presse avec son homologue de Kiev. Laissez-moi être extrêmement clair. Le fait que pendant quelques heures, il y a eu une page du gouvernement qui a été difficile à accéder ne va pas nous dissuader en rien d'être présents et toujours là pour en faire plus pour soutenir l'Ukraine, a-t-il ajouté. En fin d'après-midi, la situation s'est rétablie. Nous avons collaboré avec Services Partagés Canada et le Centre canadien pour la cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications pour enquêter sur le problème et le résoudre le plus rapidement possible, a dit Pierre-Alain Bugeaud, porte-parole du Bureau du Conseil privé, le ministère du Premier ministre. Le Sénat a lui aussi subi une cyberattaque, mais son site fonctionnait normalement en fin de matinée. Nous pouvons confirmer qu'un incident fait l'objet d'une enquête, a écrit la porte-parole de la Chambre haute, Alison Corn. L'équipe informatique du Parlement a également détecté un nombre anormalement élevé de connexions à son site la veille, dit Amélie Crosson, directrice des communications pour le président de la Chambre des communes, ce qui l'a également mis hors ligne par intermittence. C'était une attaque par déni de service. Les systèmes de la Chambre ont réagi pour les protéger. Ce type de piratage par DDoS est justement la spécialité du groupe No Name. Il consiste à submerger un site de demande de connexion jusqu'à ce qu'il ne réponde plus. Activiste. H-A-C-K-T-I-V-I-S-T-E-S. No Name s'apparente à ce que les experts appellent des activistes, des pirates informatiques aux motivations politiques. Les attaques par DDoS sont une façon facile pour eux de faire passer leur message et de garder leur vis-à-vis occupé, affirme Brett Callow, expert en cybermenaces à la firme d'antivirus MCSoft. C'est également l'avis du Centre de sécurité des télécommunications CST qui surveille l'intégrité des technologies de l'information au pays. L'organisme a pris note des problèmes qu'éprouvent certains sites web du gouvernement du Canada actuellement inaccessibles. Le CST et son Centre canadien pour la cybersécurité ont pu remarquer qu'il n'est pas inhabituel que des attaques par DDoS visent les pays qui accueillent des représentants du gouvernement ukrainien. Ces incidents attirent l'attention, mais ont très peu de conséquences sur les systèmes touchés, a écrit la porte-parole Robin Hawko dans un courriel à la presse. Sur son compte Telegram, No Name dénonce un mécanisme de coopération que le Canada a proposé avec les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud pour faire face à l'alliance entre la Russie et la Chine. Une alliance appelée à se renforcer après de telles initiatives russophobes, déclare No Name sur son compte en anglais, avant de se vanter d'avoir mis hors ligne le site officiel du Premier ministre. Selon Brett Kahlo, de tels groupes sont vraisemblablement appuyés par l'État russe, voire exploités directement par Moscou. Leur stratégie est assez simple. En gros, ils veulent que les gens pensent « Oh mon Dieu, s'ils peuvent pirater le site du Premier ministre, qu'est-ce qu'ils peuvent attaquer d'autre? Peut-être qu'ils peuvent provoquer des explosions de l'éoduc? » L'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, explique que des cyberpirates comme ce groupe russe ont accès à des milliers de bots, des ordinateurs sous leur contrôle pour se connecter à haute fréquence sur les sites ciblés. Ils veulent faire un coup d'éclat, dit-il. On va peut-être en voir d'autres qui vont écoper, y compris dans les entreprises privées. Les pirates russes revendiquent d'ailleurs également une attaque sur le site de Novabus, une filiale de Volvo établie à Saint-Eustache, dont le site est également en panne. Un DDoS est là aussi en cause. Mais pour nous, c'est plus un inconvénient qu'autre chose, dit le porte-parole Christos Kritsidimas. C'est notre site externe qui est affecté. On ne l'utilise pas pour faire des transactions. Des attaques sur l'infrastructure énergétique? Le premier ministre n'a pas nié qu'un gazoduc canadien a pu faire les frais d'un piratage, comme le suggéraient des documents ayant fuité du Pentagone. Je peux confirmer qu'il n'y a eu aucun dommage physique à une quelconque infrastructure énergétique à la suite de cyberattaques, a toutefois indiqué Justin Trudeau. Selon des médias comme le New York Times, des pirates auraient envoyé au Service fédéral de sécurité russe, FSB, des copies d'écran censées démontrer qu'ils pouvaient désactiver des systèmes de sécurité et augmenter la pression sur des valves dans un gazoduc non identifié au pays. L'information figurait dans une fuite de documents provenant prétendument du Pentagone, mais les experts remettent en question l'authenticité de certains d'entre eux. Le Centre de la sécurité des télécommunications refuse de commenter, que ce soit pour confirmer ou infirmer, tout renseignement qui aurait fait l'objet d'une fuite en raison de la nature délicate du renseignement et du risque de révéler des tactiques, des techniques et des procédures, affirme la porte-parole Robin Arco. C'était « Un groupe de pirates pro-russes revendique l'attaque », un texte de Hugo Jonca et Mélanie Marquis, paru le 11 avril 2023 dans La Presse.
Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Que diriez-vous d'un médecin qui pratique sans se soucier de la science? D'un chirurgien ou d'un radiologiste qui prend des décisions sans se baser sur des données et des preuves scientifiques? Ce serait bien sûr inacceptable, voire dangereux. Pourtant, les réformes du réseau de la santé et des services sociaux ont été menées au cours des deux dernières décennies sans s'appuyer sur des bases rigoureuses établies par la recherche sur les services de santé. Rien d'étonnant alors de constater l'échec de ces réformes et ses conséquences néfastes sur l'accès à des services de qualité. La médecine s'appuie maintenant de plus en plus sur des données probantes obtenues à la suite de nombreuses études scientifiques menées de façon rigoureuse à travers le monde. D'abord, avant d'être financées, ces études font l'objet d'une évaluation indépendante par les pairs, les collègues chercheurs experts du même domaine, afin de s'assurer de la rigueur du projet. Une évaluation éthique minutieuse, voire parfois tatillonne, assure la sécurité et la probité de l'étude projetée avant de recruter des participants. L'expérimentation est ensuite menée en ayant soin d'éviter tout biais pouvant fausser les résultats. Puis, une nouvelle évaluation par les pairs survient lors de la publication des résultats. Comme la preuve scientifique ne peut s'appuyer sur une seule étude concluante, l'expérimentation doit être répétée par d'autres chercheurs sur d'autres populations pour confirmer les conclusions. Une analyse de plusieurs études, une méta-analyse ou une revue systématique permet de combiner les différentes expérimentations pour obtenir une preuve scientifique solide. Finalement, des comités d'experts traduisent ces preuves en recommandations ou guides de pratique clinique. C'est ce processus qui est à l'origine de l'utilisation des tests diagnostiques ou des traitements par le médecin. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine basée sur des preuves. Il existe tout un champ de recherche aussi rigoureux et systématique pour étudier l'organisation et la gestion des services de santé. Comme on s'adresse souvent à des populations et des systèmes, les méthodes de recherche sont différentes, mais la même rigueur y est appliquée, de la conception de l'étude jusqu'à sa publication et à l'examen combiné des expérimentations semblables pour obtenir une preuve solide. Cette science de l'administration de la santé est enseignée dans les universités. On y mène des travaux, financés par les organismes nationaux et internationaux de subvention, qui sont publiés dans des revues scientifiques dédiées. Les gestionnaires et dirigeants de notre réseau ont souvent été formés dans les programmes de ces universités. On y enseigne comment appuyer ses décisions et orientations sur des données probantes. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Informed Decision Making, ou les décisions éclairées par les données probantes. Comme le médecin, tout gestionnaire ou dirigeant devrait toujours baser ses décisions sur des preuves scientifiques. Les résultats d'une étude sur un médicament ou un test diagnostique peuvent être facilement transposés et appliqués à d'autres populations. Il n'en va pas de même pour la recherche sur les services de santé, où le contexte et la population visée peuvent être déterminants sur les résultats d'une intervention. C'est pourquoi il faut être plus prudent avant d'appliquer une intervention, pourtant efficace, à une autre population, dans un autre contexte. C'est ce qui explique qu'on parle davantage de décisions éclairées par les données probantes et non basées sur des données probantes comme en médecine. Il est désolant de constater que les réformes majeures des 20 dernières années n'ont pas été éclairées par des données probantes. Auparavant, une réforme était souvent précédée par un examen rigoureux au moyen d'une commission d'enquête ou d'un groupe de travail. Ainsi, les recommandations des commissions Castonguay, Rochon et Claire ont toutes été appuyées sur un examen rigoureux et exhaustif de la littérature scientifique pertinente. Il n'en fut pas de même lors des réformes Couillard en 2003 et Barrette en 2015. Des réformes majeures, concoctées par des ministres médecins qui n'ont pas appliqué la même rigueur scientifique à transformer le système de santé que celle qu'ils ont apprise et appliquée pour traiter les malades. La commission parlementaire chargée d'examiner la réforme Barrette a pourtant reçu des témoignages de plusieurs scientifiques venus démontrer que cette réforme n'aurait pas les impacts anticipés à la lumière des connaissances scientifiques. On les a ignorés avec le résultat que l'on connaît. On a préféré se baser sur des idées alléchantes, mais non éprouvées. Dans ce domaine, le cimetière scientifique des bonnes idées est vaste et, comme chercheur en ce domaine, j'y ai souvent contribué. Un exemple. Je souhaitais démontrer que des visites préventives par une infirmière formée auprès de personnes âgées à risque pouvaient permettre de détecter et d'intervenir précocement pour prévenir la perte d'autonomie. l'expérimentation que nous avons menée n'a pas démontré d'impact significatif d'un tel programme. Ce résultat a par la suite été reproduit dans d'autres pays avec les mêmes résultats. Ce qui avait l'apparence d'une bonne stratégie s'est donc avéré un mirage. Pourtant, ce genre de programme continue malgré tout d'être implanté dans plusieurs régions du monde avec des investissements en ressources humaines et financières considérables. On ne retrouve pas au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et dans les établissements de santé une culture de décision éclairée par des données probantes. Et pourtant, dans notre système public universel, on en a des données. Mais pour toutes sortes de raisons, on ne les utilise pas. Il n'y a plus d'équipe solide dédiée à l'évaluation et au développement au ministère et dans les établissements. Comment une entreprise avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars peut-elle se développer et améliorer ses services sans un secteur de recherche et développement? La R&D, recherche et développement, comme on l'appelle dans le secteur privé, est une condition essentielle à la survie d'une organisation et à son adaptation constante aux besoins des clients ou des usagers. Dans les établissements, on applique bien souvent des méthodes et programmes à la mode, prônés par des consultants rémunérés grassement. La fameuse méthode Lean ou Toyota en est un bon exemple. Bien qu'implantée largement dans le réseau à grands frais, les preuves scientifiques de son efficacité en santé sont plutôt faibles. Lorsque de nouveaux services, programmes ou politiques sont implantés, il n'y a aucun souci d'évaluer leur effet autrement qu'en utilisant quelques indicateurs, liés beaucoup plus au processus. Exemple, nombre de services offerts, temps d'attente, qu'aux résultats. Exemple, nombre de vies sauvées, amélioration de l'état de santé, satisfaction des patients. C'est d'ailleurs le jugement porté par le vérificateur général et le commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, lors de leur récent rapport. Les quelques études scientifiques sur la réforme de 2003 et certains programmes gouvernementaux, groupes de médecine de famille, guichets d'accès, par exemple, sont plutôt réalisés par des chercheurs universitaires avec un financement indépendant. Les effets désastreux des dernières réformes devraient nous alerter quant à la nécessité d'appuyer des décisions de gestion ou de réforme sur des données probantes. Toute nouvelle politique, programme ou service devrait obligatoirement faire l'objet d'une évaluation rigoureuse quant à sa mise en œuvre et à son impact sur la santé de la population. Nous ne pouvons plus diriger et gérer un système de santé sur la base de lubies colportées par des gourous mal avisés. La science de l'administration des services de santé existe. Il faut en profiter pour utiliser judicieusement les ressources limitées de l'État au plus grand bénéfice de la population. C'était « Gérer la santé en s'appuyant sur la science », une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Et si la colocation, c'était pour vous aussi? Un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 18 mars 2023 dans la presse. Avez-vous déjà rêvé de vivre un jour avec vos amis dans un immeuble où vous auriez chacune votre appartement? Vous rêvez peut-être de souper ensemble une fois par semaine, d'avoir une grande cour où pourraient s'amuser les enfants que tout le monde participerait à surveiller? Je suis heureuse de vous l'apprendre, vous rêvez de vivre en communauté intentionnelle. Gabriel Onctil sait rendre son mode de vie attirant. Cet extrait est tiré de son essai « Logé à la même adresse » paru le 15 mars 2023 aux éditions XYZ. La journaliste y aborde les joies et défis d'habiter avec de nombreuses personnes. Mais on est loin des clichés de colocation étudiante, ici. Gabriel et ses 7 colocs partagent tout de manière équitable. L'espace, les comptes, la nourriture, les objets, comme les décisions. Vivre en communauté intentionnelle, c'est choisir de s'entourer de gens avec qui on partage des valeurs, mais aussi des ressources. Ce mode de vie différent est un contrepoids à la précarité financière, à l'isolement, à la crise climatique et au difficile accès au logement qui caractérise notre époque, estime Gabriel Onctil. Plus encore, il serait agréable. Concrètement, les 8 adultes de 28 à 36 ans habitent dans 5 appartements voisins qui forment la cafétéria. Chacune des unités a des aires collectifs, chambre d'amis, gym ou salle de lavage, par exemple. L'appartement au rez-de-chaussée duplex dans lequel se déploie la majorité de la cafétéria comprend un grand salon et une cuisine commune. C'est là que j'ai retrouvé Gabriel et 4 de ses colocataires pour un de leurs soupers de groupe. 2 fois par semaine, 2 personnes ont la tâche de nourrir toutes les autres, lunch du lendemain inclus. La charge mentale et ménagère s'en trouve répartie sur toutes les épaules. Le rêve. Mais bon, devoir laver des chaudrons format X large dans un évier de taille ordinaire, ça, c'est un peu moins le rêve. Ce mardi-là, Max et Claudel avaient préparé des bols de riz au tofu magique. J'en ai profité pour me régaler et pour tenter de comprendre à qui s'adresse ce mode de vie. Beaucoup de gens croient que ce n'est pas pour eux, mais les sacrifices que ça prend sont moins grands qu'ils le pensent. Répond d'emblée Gabriel Onctil, qui a cofondé la cafétéria et qui y réside depuis 14 ans. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'apprentissage, surtout des apprentissages d'intelligence émotionnelle. Ça exige d'être explicite par rapport à ce que tu as envie de faire et on n'est pas toujours très bon là-dedans. Il faut savoir non seulement exprimer ses besoins, mais aussi se remettre en question quand on empiète sur ceux des autres. Des fois, on se fait dire qu'on a fait quelque chose tout croche et on doit l'accepter. Ce n'est vraiment pas facile, mais c'est une compétence essentielle que tout le monde devrait développer, à mon avis, dit Gabriel Onctil. On devine que vivre en communauté intentionnelle exige une certaine maturité et beaucoup de flexibilité. On a un peu moins de droit de regard sur la déco ou sur ce qui traîne, admet Max, qui loge à la cafétéria depuis 5 ans. Il y a des compromis à faire, mais ça t'apporte plus que ce que tu peux penser. Il y a tout un réseau qui se construit autour de toi. Justement, est-ce qu'habiter avec autant de gens ne gruge pas l'énergie? Anaïs, locataire depuis 4 ans, me corrige. Pour elle, vivre en communauté intentionnelle est la parfaite stratégie pour créer des relations. Je suis très introverti et je passe beaucoup de temps chez moi. Si je veux rencontrer des gens, le mieux, c'est que les gens soient chez moi. Dans « Loger à la même adresse », Gabriel Onctil cite d'ailleurs des recherches qui démontrent que ce mode de vie sied particulièrement bien aux introvertis. En la lisant, on comprend qu'il est aussi une option intéressante pour les éco-anxieux. Je la cite. « Plus de 80% de la population canadienne vit en ville, selon Statistique Canada 2018. Pour faire face aux problèmes de l'avenir, il faut repenser notre manière de partager cet espace restreint, sans contribuer à l'étalement urbain. » Elle poursuit en expliquant que la cafétéria utilise 2 machines à laver pour 5 logements. Qu'il y a ici des gens qui savent à peu près tout réparer, vélos comme petits électros, et que la nourriture est achetée en vrac, ce qui réduit les emballages. Alors que les maisons sont toujours plus grandes, sa gang opte pour une manière de vivre qui lutte contre les défis auxquels on fait collectivement face. Normal donc que l'idée fasse de plus en plus jaser. Pourtant, elle est loin d'être neuve, comme le souligne Gabriel Anctil dans son essai. Bien avant les hippies ou les communautés religieuses, des gens se sont regroupés pour vivre selon leurs propres idéaux. En fait, la première communauté intentionnelle connue dans le monde occidental remonterait à 525 avant notre ère. Alors, comment expliquer qu'on associe seulement ce mode de vie aux étudiants aujourd'hui? Les colocataires s'enflamment en entendant ma question. La pression de la monogamie, l'idéal de la famille nucléaire et les chemins tracés d'avance qui nous mènent directement vers le quotidien à deux sont tous cités comme coupables. Ça prend du culot pour choisir une autre voie, mais pour le groupe, ça se révèle payant. Je suis habitué de vivre dans de grosses colocations, mais il y a quelque chose de plus ici, me dit Claudel, une volonté de vivre et de construire quelque chose ensemble. Parlant de l'attention qui est portée aux autres, le prix de la meilleure réplique du souper revient à Marianne, qui vit à la cafétéria depuis une décennie. On aime dire que c'est comme si on était en relation polyamoureuse avec tous les gens de la cafétéria. Charmant et important, tout ça. C'était, et si la colocation, c'était pour vous aussi. Un texte de Rosémée Autonne T. Morin, paru le 18 mars 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.